Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington pour parler aujourd'hui de la contribution des jeunes dans les efforts de paix et de sécurité. La résolution 2250 sur la jeunesse, la paix et la sécurité, adoptée en 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, reconnaît que les jeunes peuvent jouer un rôle dans la prévention et le règlement des conflits. De nombreux jeunes dans le monde sont victimes de conflits et enrôlés par des groupes rebelles ou armées régulières. Lors de déplacements de population, certains se retrouvent dans la rue. Les plus chanceux sont pris en charge par des ONG et deviennent des acteurs du changement. Alors les jeunes sont-ils de bons vecteurs pour résoudre les conflits communautaires ou régionaux ? Comment leur permettre d'être de véritables agents de changement positif ? C'est les questions qu'on va se poser entre autres. Nous avons comme invité Sarah Ntamboué, qui est fondatrice de Change Your World à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, actuellement en visite à Washington. Sarah, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
Et on a également Jacques Miango, qui est président de Global Congolese Diaspora Network, ici aux États-Unis, qui a notamment formé des jeunes en matière de résilience communautaire. Alors voilà, on sait que beaucoup de jeunes dans le monde, merci beaucoup d'être avec nous, Jacques. C'est un plaisir de vous avoir aussi.
Merci.
Alors on sait que de nombreux enfants sont mobilisés, jeunes sont mobilisés pour la guerre dans le monde, et on essaie un petit peu d'un autre côté de les mobiliser pour la paix notamment. Alors c'est pas seulement en Afrique, bien entendu, on a l'Ukraine, la Russie, on a le conflit maintenant israélo-palestinien, et on constate que finalement les adultes ne parviennent pas à faire la paix, donc on essaie de faire appel aux jeunes de temps en temps. Je voudrais me retourner tout d'abord vers Sarah pour commencer. Sarah, vous avez donc une ONG, vous faites un travail extraordinaire, on a longuement parlé, c'est vraiment formidable le travail que vous faites.
Merci.
Vous recueillez des enfants là-bas à Goma, on connaît la situation. Et ce que je voulais savoir un petit peu, c'est au niveau du leadership des jeunes filles, parce qu'on sait qu'elles sont victimes de violences, les filles, les femmes, plus facilement que les hommes ou que les garçons. Donc, qu'est-ce qui est fait exactement, vous, au niveau de votre association, par exemple, au niveau du leadership des jeunes filles?
Je dirais par rapport aux jeunes filles, d'abord nous croyons à la compétence de la jeune fille, comme je le suis aussi, je suis une jeune fille, je réussis à monter une ONG, donc ça veut dire d'autres filles peuvent aussi le faire, et aujourd'hui à travers l'ONG nous travaillons en appui et nous assistons plusieurs familles. Et j'imagine combien de filles auraient le même potentiel, mais n'ont pas des opportunités de mettre en œuvre ces potentiels. Donc, c'est à cause de ça que nous, à notre niveau, nous commençons par identifier les filles dans les communautés qui sont affectées. Elles peuvent se retrouver dans la rue, elles se retrouvent dans des centres de prise en charge. Notre activité d'identification, nous faisons des descentes avec nos fiches d'identification. Nous identifions les filles affectées par le conflit d'une manière ou d'une autre. Elles étaient violées, elles étaient rejetées dans la communauté parce qu'elles sont tombées enceintes. Et quand on les identifie, on les écoute, on a des programmes de counseling pour orienter selon les compétences qu'elles démontrent. Et à travers ces compétences, elles sont formées et arrivent maintenant à mettre ou à exhiber leur potentiel. Et là, on les accompagne pour faire d'elles de modèles positifs et sensibiliser d'autres filles à suivre le même processus.
Merci beaucoup, Sarah. Jacques Miango, en tant que président de Congolese Diaspora Network, je ne sais pas si ça rentre dans un autre cadre, mais en tout cas, vous avez formé des jeunes en matière de résilience communautaire. Sarah a parlé du potentiel des jeunes. Ils ont un potentiel extraordinaire. Comment, vous, dans vos mentorats, comment vous êtes arrivé à déceler ce potentiel? Comment on le fait naître, ce potentiel, chez les jeunes?
En fait, le problème de la jeunesse, c'est un problème qui concerne tout le monde. Surtout qu'en RDC, la jeunesse représente à peu près 60 ou 70% de la population actuelle. Mais cette jeunesse a été victime et continue d'être victime d'un système imposé. Et pour faire parvenir à ces jeunes de rentrer encore dans la société telle que se doivent. Donc, nous devons les approcher, les informer, puisque la manque d'information fait que les jeunes sont mal dirigés. Donc nous nous battons sur l'information, l'évaluation de la situation dans chaque secteur et essayer de les mettre avec le gouvernement.
Merci beaucoup, Jacques Miango. Donc, on va continuer un petit peu cette discussion après avoir écouté Hortense Cavour-Maliro. Elle est de Goma, Sarah. Je pense que vous la connaissez peut-être.
Oui.
Elle est formidable. Hein. C'est donc la présidente de l'association La Voix des Handicapés. Elle s'était présentée. Elle était candidate,
hein, déclarée.
Voilà. Elle a pas pu. Elle a expliqué pourquoi. Hein. C'est notamment à cause de la caution. On l'écoute.
Comment permettre aux jeunes d'être de véritables agents de changement positif? Je pense qu'il faut donner la confiance à la jeunesse. Parce que quand on fait confiance à cette jeunesse-là, c'est ce qui leur donne même la motivation de pouvoir agir. Parce que la jeunesse actuellement est à la merci des chômages, à la merci de tous ces maux qui se font sentir dans nos pays, et en pensant que ce sont les gouvernements, nos gouvernements qui sont entre guillemets irresponsables à pouvoir donner à la jeunesse l'emploi. Je pense que les conséquences des non-encadrement de la jeunesse, c'est ce qui fait à ce que les jeunes qui sont dessus de tout ce qui se passe au pays, cette conséquence là maintenant va les pousser à aller dans des groupes armés. Alors, ils se réfugient dans les groupes armés et avec les gens qui les manipulent. Et à la fin, vous êtes en train de tuer votre pays. Donc, je pense que la première chose, il faudrait arriver à encadrer cette jeunesse. Et quand on a une vraie main-d'œuvre partant de cette jeunesse, si elle arrivait à trouver des financements qui vont aider à faire leurs actions entrepreneuriales, à créer des emplois, je ne vois pas en quoi est-ce que cette jeunesse peut être perdue dans des groupes armés. Je pense qu'il faudrait arriver à encadrer cette jeunesse et vous allez voir que ça va propulser les développements économiques et ça va donner l'espoir pour cette jeunesse-là. Parce que quand la jeunesse n'est pas occupée, n'est pas encadrée, elle est désespérée.
Voilà, c'était Hortense Cavour-Maliro, elle est à Goma. Sarah Ntamboué, là on parle au niveau concret, que faire, occuper les jeunes. Beaucoup disent hein, effectivement qu'il faut encadrer les jeunes, hein, les activités. Mais au niveau des négociations, au niveau des médiations, vous-même Sarah, je crois que vous avez participé à ce type de processus. Ouais. Mmh. Vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, je pense que ce qu'elle vient de dire, elle a vraiment raison. La jeunesse a besoin d'être encadrée, mais après cet encadrement, il y a la continuité. Non seulement on doit être autonome, mais on doit apprendre aussi à décider, à s'approprier des décisions qui ont été prises, parce que la jeunesse est là pour relever, au fait, non seulement les défis, mais pour hériter aussi du leadership de la nation. Donc, à notre niveau, c'est encore un défi. Comme vous avez vu avec la résolution 2050, elle a vraiment tablé sur la participation de la jeunesse. Quand on participe, on peut facilement s'approprier. Et c'est peut-être aussi une des gaps qui permet à ce que certains jeunes intègrent le groupe armé. Parce que les groupes armés sont là, ils parlent aux jeunes, ils sont en contact avec la jeunesse. Mmh. Et la jeunesse se trouve à l'information de groupes armés, ils intègrent les programmes qui accompagnent la jeunesse, qui font participer aujourd'hui la jeunesse. Elles ne sont pas nombreuses. Ce sont des opportunités. Moi, par exemple, comme je suis avec l'équipe et les travaux que fait Jacques Miango avec qui nous sommes, c'est pas tous les jeunes qui ont ces opportunités. Et dès l'avoir aujourd'hui, je me retrouve avec vous ici, je peux parler au nom de plusieurs jeunes. Mais il y a plusieurs jeunes qui aimeraient bien aussi faire entendre leur voix, mais ils n'ont pas cette opportunité.
Alors, justement. Ouais. Justement, Sarah, je vais me tourner vers Jacques Miango. Je voulais en venir ici au niveau de la culture. Bon, c'est pas seulement en Afrique, c'est dans beaucoup de cultures. L'enfant, on lui dit de se taire. Il a pas droit à la parole. Comment essayer d'inverser un petit peu? Est-ce que ça se joue pas un petit peu dans la culture? Essayer d'inverser ce processus aussi où on donne vraiment la parole à l'enfant dans des médiations de village ou autres, où on dit à l'enfant, toi, tu as ta parole, tu peux parler.
Oui, en fait, la tradition africaine nous enseigne que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, il appartient à la maman, mais quand l'enfant est né, il appartient à tout un village. Et cette logique, nous l'avons perdue avec l'incident de 1960-96, la guerre. Donc la guerre a fait de ces enfants des acteurs, des policiers. Ceux qui ont attaqué le Congo ont donné, ont recruté que des enfants. Et vous le voyez même quand le Kadogo appelé rentre à Kinshasa, c'était presque des enfants. Donc ces enfants maintenant qui n'ont pas eu bénéficié du soutien des gouvernements sont devenus juges dans leur coin. Et le travail que Sarah est en train de faire, c'est un travail de titan qui mérite un soutien gouvernemental. Et pour remettre ces enfants vraiment dans le rail de la vie, de la jeunesse, pour qu'ils jouissent de leurs droits de jeunes, il faut des programmes vraiment bien spécifiés, puisque ça nécessite aussi une intervention psychologique, puisque quelqu'un qu'on l'envoie de tuer son ami, et il voit le sang de son ami, donc il devient propriétaire de sa vie. Donc, il ne voit plus ce que la famille peut faire pour lui.
Et il y a les traumatismes aussi, en fait.
Et le traumatisme aussi fait aussi partie. Donc, avec ce que Sarah fait, dans la participation, elle tend vraiment à avoir le support du gouvernement. Mm-hmm. Puisque ses enfants appartiennent à un pays, habitent dans un pays. Mm-hmm. Donc, le gouvernement doit écouter, faire l'évaluation de chaque cas et dans chaque commune. Puisqu'en réalité, il n'y a pas de problème d'enfant, mais c'est au gouvernement de prendre le relève.
Merci beaucoup. Jacques, je voudrais qu'on écoute maintenant Rita Solange Diop. C'est une ancienne footballeuse internationale. Elle est camerounaise.
On l'a vu sur la jeunesse, parce qu'il est question de la jeunesse aujourd'hui, parlant des agents de changement positif. Un agent de changement est quelqu'un qui a un emploi dans une organisation et qui facilite le changement. Il peut jouer ce rôle dans tous les domaines de la société aujourd'hui. Ils sont dans le bénévolat, dans les nouvelles technologies, et ils organisent des événements sportifs, ils s'engagent dans les actions communautaires. Alors dans le contexte actuel, il s'agit entre autres de contribuer aux efforts de paix et de la sécurité. Ceci dit, les jeunes ont besoin d'espaces sûrs et privilégiés pour suivre l'innovation et la créativité qui favorisent la consolidation de la paix. Lorsque les institutions sociales ne fournissent pas de tels espaces, les jeunes eux-mêmes sont amenés à créer ces lieux.
Voilà, c'était Rita Solange Njom, elle est camerounaise. C'est une dame qui a fait beaucoup, qui fait encore beaucoup pour le football, hein, non pas seulement le football féminin dans son pays. Écoutons tout de suite une autre sportive, c'est Maggie Safi Makanda. Elle est connue aussi, elle est de Lubumbashi. Elle a été championne en athlétisme, elle est professeure d'éducation physique et elle est entraîneuse adjointe du tout puissant Mazembe Dam.
Nous venons de remporter ces trophées parce que c'est dans le cadre de Malaika, de Georges Malaika Foundation. C'est une ONG qui encadre les jeunes filles et les jeunes garçons dans les sports et autres. Donc nous organisons les études gratuites aux jeunes filles. Nous avons un centre communautaire où nous accueillons les jeunes garçons et filles. Et là, ils apprennent la mécanique, l'électricité, l'informatique, l'anglais et surtout les sports et précisément le football. Alors, nous apprenons à ces jeunes comment est-ce que le sport peut changer, peut apporter la paix dans nos communautés, comment est-ce que le sport peut apporter la paix dans les pays. Parce que quand on parle du football, par exemple, on parle du fair play. Et le football unit des nations et des nations, des pays, des communautés. Et nous disons toujours aux enfants que le football, c'est le jeu d'ensemble, c'est le jeu d'équipe. Et quand on parle de l'unité, nous voyons déjà la paix. Alors, c'est ce que nous apprenons à nos jeunes dans notre centre communautaire et même à l'école. Nous transmettons le message de la paix à travers le football et autres sports.
Voilà, c'était Maggie Safi Makanda. Elle est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et en fait, Maggie, elle vient de remporter à Riyad, en Arabie Saoudite, le trophée Peace and Sport. Voilà, c'est un beau trophée. Et donc, voilà, donc elle expliquait un petit peu justement ce qu'il en est par rapport à cela. Sarah Ntamboué, par rapport au sport, moi j'ai vu des vidéos magnifiques de ce que vous faites avec tous ces enfants de la rue hein, que vous avez récupérés, et on leur apprend à danser. Et ça, c'est important aussi, c'est du sport aussi. C'est une activité, et une activité joyeuse. C'est important ça, non?
Oui, c'est très important. Et ce sont des activités que nous avions mises en place selon le potentiel de ces enfants et à travers leur attachement de culture. On ne peut pas aller loin de ce qu'ils sont habitués à faire. Et c'est ce que je voulais dire, peut-être si je vais revenir à la participation. Il y a les processus de paix qui existent. Et sur ces tables-là, je doute qu'il y ait des jeunes qui participent pour décider ou pour influencer les décisions. J'en ai participé une fois, mais c'était par le mécanisme de partenaire. Ce que nous voulons atteindre, c'est que le gouvernement table sur la participation de la jeunesse avec un quota efficace sur les décisions et l'influence de ces décisions. Sinon, vous allez voir les ONG, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Malaika, n'est passée que par l'ONG. Donc, c'est à travers les ONG que nous prenons aujourd'hui comme stratégie d'influencer dans la communauté. Mais tous nous savons que la guerre ne part pas seulement de communautés. Il y a aussi des décideurs qui ont un rôle important à travers les accords, à travers des décisions qu'ils prennent sur la gestion du pays. Et c'est là que la jeunesse aimerait aussi participer pour influencer et du haut et de bas par la communauté. Parce que si la communauté elle est résiliente, mais les défis sur la gestion continuent, on risque de se retrouver dans le même cycle et ça risque de compromettre les efforts que fournissent la jeunesse. Donc la confiance, comme l'a dit Madame Hortense, encore une fois, c'est très bien, mais c'est pas une obligation. Il faut que les gouvernements, les décideurs soient conscients que la jeunesse est en train de faire du bon travail et qu'elle mérite une table auquel elles doivent décider ou influencer les décisions.
Et comme Jacques Miango l'a dit tout à l'heure, hein, la jeunesse est majoritaire, donc logiquement, elle doit avoir une voix majoritaire. Bon, le problème qu'on connaît partout dans le monde, c'est que les jeunes ne peuvent pas voter avant généralement 18 ans déjà, donc c'est une voix qu'ils n'ont pas, donc on peut s'imaginer qu'ils pourraient l'avoir autre part. Au niveau des formations du mentorat Jacques Miango, qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier chez ces jeunes? Moi, je m'attache beaucoup au principe de motivation. Un jeune, quand on lui donne de l'importance, on a vraiment l'impression que s'il est motivé, il peut tout faire. C'est un peu ça, ou c'est plus compliqué que ça, ou ça peut être assez simple de motiver un jeune?
Je pense que c'est simple. Je partirai avec la réalité, par exemple, ici. Ouais. Dans les années presque 90, 70, dans le Bronx à New York. C'était vraiment une communauté où il y avait une délinquance impossible. La violence était partout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons avec l'évolution du temps? Vous partez à Bronx ou bien dans beaucoup de cités américaines,
c'est très populaire. Ouais.
Vous trouverez que de terrains de basketball, puisque c'est ce que la jeunesse aime. Et par contre, au Congo, la jeunesse s'appuie beaucoup au football africain, soccer. Mais aujourd'hui, la jeunesse vit son vieil âge. Ils ne sont plus jeunes. Il n'y a plus de tournois de football dans le quartier, puisque ça facilite aux rebelles de trouver ces accroupements comme un lieu de recrutement de jeunes. Donc aujourd'hui, les jeunes ne vivent plus comme jeunes. Donc ils sont en train de perdre. Et c'est là où le gouvernement doit vraiment beaucoup tabler. Et nous voyons déjà le point positif avec, au Congo, nous parlons, l'actuel gouvernement qui tente de mieux faire, mais il est bloqué par certains accords du passé. Or, le pays ne peut pas être dirigé par les accords, mais par une constitution qui tient compte de la voix aussi de la jeunesse. Donc c'est aussi aux leaders communautaires de voir comment restaurer cette confiance à la jeunesse, de jouir de leur jeunesse.
Merci beaucoup Jacques. On va écouter Leila Mbimbe, elle est au Cameroun.
Concernant la question qui est de savoir comment permettre aux jeunes d'être de véritables agents de changement positif, l'on ne saurait développer cette problématique sans toutefois définir la jeunesse comme étant la relève d'un pays ou d'une nation. C'est le sang neuf dont on a besoin pour impacter, pérenniser ou changer les choses. La jeunesse est une puissance ou une armée qui passe inaperçue, mais lorsqu'elle se lève, peut faire de grandes choses. Donc, développer cette problématique revient tout d'abord à énoncer les causes, qui sont la pauvreté, la misère et le chômage, et en un second temps, les conséquences. En troisième ressort, identifier les solutions pour y pallier. Nous avons la sensibilisation de ces jeunes-là. Et enfin, l'encadrement sur le plan psychologique, moral, financier et éducationnel.
Voilà, c'était Leila Mbimbe, elle est au Cameroun. Écoutons tout de suite à nouveau une Congolaise, c'est Caroline Pindi Nora, elle est à Kinshasa.
Les jeunes, en fait, doivent être pris en charge. Hein. Le jeune doit être pris en charge. C'est déjà une bonne chose qui est l'école, parce que tous les enfants, tous les jeunes doivent être envoyés à l'école. Et après l'école, il faut renforcer leurs capacités. Il faut des centres de formation pour le renforcement de leurs capacités. Au-delà de ça, il faut qu'on crée aussi des formations parallèles pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de payer un cursus scolaire normal jusqu'à l'université, par exemple. Il faut qu'on crée, justement, comme je disais, des centres de formation en techniques appliquées. Je vois la maçonnerie, former des maçons, former des mécaniciens. Voilà, ce sont des professions, des métiers qui peuvent leur permettre, en fait, de lier les deux bouts du mois. Au-delà de ça, il faut également inculquer aux jeunes la notion du patriotisme. C'est très important. En fait, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler pour le pays. Il faut qu'ils aiment le pays. C'est dommage parce que avec la précarité et la misère qui prévaut dans nos pays, les jeunes réfléchissent en termes de survie. Et ça les pousse justement à tomber dans tout ce qui est illégal. Il faut des vraies politiques d'encadrement pour les jeunes. Il faut aussi qu'on puisse les occuper de manière saine. On peut justement, par exemple, les envoyer dans des filières sportives. Il faut en fait occuper les jeunes et il faut leur montrer qu'ils sont l'avenir de demain. Il faut les impliquer dans la gestion du pays. C'est très important parce qu'on n'a pas seulement besoin des personnes âgées pour aller siéger au Parlement ou pour travailler dans un gouvernement. Il faut justement qu'on puisse roder aussi les jeunes, les préparer à la gestion future de leur pays.
Voilà, c'est Caroline Pindi Norin. Elle est architecte à Kinshasa et elle parle comme ça parce que Caroline, elle forme aussi beaucoup de jeunes, notamment au niveau de la construction. Elle pratique le mentorat. Sarah Ntamboué, pour terminer, parce que là, en fait, très rapidement, on parle des processus de paix, de l'implication des jeunes dans les processus de paix, mais comment éviter la guerre, comment la prévenir? Moi, ce que j'ai remarqué, d'une certaine manière, c'est qu'on n'a peut-être pas assez en Afrique de centres, on va dire, de centres d'activité pour les jeunes. Quand vous voyez en Occident comment ça se passe, qu'est-ce qui est fait? Vous le faites à travers les Nations Unies. Mais est-ce qu'il faut toujours passer par les Nations Unies pour avoir des centres d'activité en Afrique pour les enfants, pour la jeunesse?
Bon, je pense que c'est de ça qu'on a parlé tout à l'heure. Peut-être que je vais encore y parler. C'est la responsabilité du gouvernement de prendre ça en tête. On ne peut pas s'en passer d'encadrer la jeunesse. Je pense qu'en démographie, on a vu que la jeunesse était le présent. Donc, je ne vois pas comment est-ce que on peut traiter sur les conflits actuels en écartant la jeunesse qui est de présent et qui joue un rôle important même dans ces conflits. Si aujourd'hui la jeunesse est décidée de quitter les groupes armés, on aura zéro milice. Ce sont des jeunes qui font des groupes armés, qui sont là, qui prennent des armes. Pourquoi ils sont là-bas? Quelque part, ils ont des intérêts, la motivation. La motivation n'est pas seulement financière. La motivation première pour la jeunesse, c'est cette considération. Pour qu'il y ait des centres d'innovation, il faut que le gouvernement mette ça dans son calendrier prioritaire et qu'il comprenne que ça ne revient ni aux ONG, ni aux fondations de développer un pays, mais ça revient au gouvernement et la population elle-même. Si la population et la jeunesse, elle est prête, que le gouvernement joue son rôle pour se faire accompagner par la jeunesse.
Merci beaucoup Sarah Ntamboué, merci beaucoup Jacques Miango. C'était vraiment un plaisir de vous avoir tous les deux avec nous ici à Washington. Avec vous, c'était Nathalie Barge, à la production Michel Joseph. Restez à l'écoute de nos programmes sur VOA Afrique. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.